L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107FM. Quinzième épisode, le cinéma et la politique en URSS de 1917 à 1953, première partie. Le cinéma, comme tous les arts, est devenu au fil du temps un objet historique. Dès la fin des années 50, il intéresse les historiens qui, dans un élan d'élargissement des champs d'études historiques, que l'on appelle la nouvelle histoire, se saisissent du 7e art pour l'étudier comme une source historique à part entière. L'un des ouvrages de référence sur la question aujourd'hui est celui de Marc Ferraud, Cinéma et Histoire, écrit en 1977. Pour lui, le cinéma est un reflet ou une illustration de l'histoire, aussi parce que c'est un champ social à part entière. Les lieux de diffusion, la réception des productions cinématographiques sont autant des objets historiques que les œuvres elles-mêmes.
De nombreux historiens se sont inscrits dans la lignée de Marc Ferraud et ont étudié la façon dont le cinéma peut nous en apprendre davantage sur l'histoire. Pour appréhender les possibilités d'études qu'offre cet objet, on s'appuie aujourd'hui sur le cas de la Russie et de l'URSS entre 1917 et 1953. C'est l'objet d'études de Natacha Laurent, maître de conférence à Toulouse 2 et spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, du cinéma et du patrimoine cinématographique.
La Russie, puis l'URSS, est particulièrement intéressante car le cinéma est alors un reflet des bouleversements politiques que connaît cette immense entité politique au XXe siècle. D'abord touchée par une incroyable révolution en 1917, au moment où le cinéma émerge partout dans le monde, la Russie, qui intègre en 1922 l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques, l'URSS, pour imposer une idéologie marxiste que l'on retrouve dans le cinéma très prolifique de cette époque. Puis l'arrivée de Staline au pouvoir en 1929 enferme peu à peu le cinéma soviétique dans un carcan dont il aura de plus en plus de mal à se départir, malgré la créativité des véritables génies du cinéma. Cette période stalinienne impose à toute l'URSS une période totalitaire qui pèse bien évidemment sur tous les arts, avant de s'achever avec la mort en 1953 du petit père des peuples. C'est donc tout ce premier âge de l'ère soviétique qui court de 1917 à 1953 qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce cinéma était-il aux ordres du régime ou y avait-il des nuances? Comment a évolué cette vision? Quel rôle a joué le cinéma dans l'expérience soviétique? Comment y a-t-il participé? Comment est-il autonome durant cette période? Et surtout, n'est-il que propagandiste?
Pour répondre à toutes ces questions, nous allons voir aujourd'hui tout d'abord comment naît le cinéma soviétique entre 1917 et 1928, pour devenir une véritable industrie, parmi les plus prolifiques au monde. Puis, au prochain clin d'œil, nous nous intéresserons à la période véritablement stalinienne de l'URSS, pour voir comment le régime totalitaire a tenté de mettre la main sur le cinéma. Clin d'œil à l'histoire,
sur Radio Bartas, 107FM. Raphaël, commençons par le commencement. Comment le cinéma arrive-t-il en Russie?
Eh bien, dès le début du cinéma, dans les tout premiers temps, juste après sa naissance dans les années 1895. Dès 1896, les frères Lumière envoient à Moscou et Bakou en Azerbaïdjan des opérateurs qui peuvent prendre des vues de 50 secondes de ces lieux et des scènes du quotidien. Charles Moisson filme le couronnement de Nicolas II, dont on a gardé quelques traces malgré l'usure. Un peu plus tard, Charles Pathé, le grand ponte du cinéma, envoie lui aussi des opérateurs en Russie et crée une nouvelle filiale, Pathé Russe. Des films sont alors produits avant 1908. Odessa en Ukraine est un grand lieu du cinéma. On y adapte des grandes œuvres littéraires, des comédies burlesques comme celle de Charlie Chaplin, mais avec un personnage récurrent en Russie nommé Arkala, qui est donc l'alter ego de Charlot. En 1917, paraît l'un des premiers longs-métrages avec une adaptation de Tolstoï, Le Père Serge, qui dure 76 minutes. On retrouve à peu près les mêmes éléments un peu partout en Europe.
1917 est une année charnière dans l'histoire de la Russie, hein, avec les révolutions de février et d'octobre, qui font d'abord tomber le tsar Nicolas II, puis qui donnent naissance d'un État communiste dominé par les majoritaires, c'est-à-dire les bolcheviks de Lénine. Est-ce que ces derniers s'intéressent au cinéma ?
Oui, les bolcheviks sont les premiers à percevoir la puissance du cinéma. Après octobre 1917, et pendant les violences de la guerre civile qui se prolongent jusqu'en 1921, Lénine nationalise le cinéma. C'est la première puissance publique à investir dans ce domaine, notamment à travers la création d'une école de cinéma. Cet art est perçu comme une arme contre tous les opposants, qu'ils soient tsaristes, mais aussi toutes les petites entités nationalistes qui sont aux marges de l'Empire, ou encore les paysans, qui sont globalement opposés à la collectivisation des terres. Les bolcheviks sont aussi à la tête d'un pays immense et analphabète à 80%. Donc pour eux, le cinéma est une véritable aubaine, car on peut, par son intermédiaire, faire passer des messages complexes grâce à l'efficacité des images. Ils en profitent donc pour diffuser des images visant à convaincre et éduquer dans les domaines aussi divers que l'hygiène, les dangers de l'alcoolisme ou encore la libération des femmes. Lénine en parle ainsi en 1922 « Le cinéma est pour nous le plus important des arts ». Cette phrase apparaît d'ailleurs dans toutes les salles de cinéma. Trotsky est convaincu par les capacités du cinéma dont il perçoit les ressources politiques, économiques, éducatives et qui peut promouvoir l'athéisme. Dans son livre « Pravda », publié en 1923, il écrit un texte sur la vodka, l'église et le cinématographe, qui sont en fait les trois thématiques qui doivent être placées sous contrôle. Mais cette déclaration démontre toutefois qu'à cette date, le cinéma n'est, comme les deux autres éléments évoqués, pas encore sous le contrôle du parti. Le cinéma est d'autant plus attirant pour le PCUS qu'il s'agit d'un art nouveau, il n'a donc pas été contaminé par un passé tsariste comme l'ont été l'architecture ou l'ensemble des arts plastiques. Le cinéma est donc, finalement, un art révolutionnaire.
Comment les bolcheviks vont utiliser le cinéma pour diffuser leurs idées ?
À cause de la guerre civile qui se prolonge entre 1918 et 1921, beaucoup de gens du cinéma quittent la Russie. Et un certain nombre de ces professionnels se rendent à Paris. Ils créent à Montreuil un studio de production prolifique appelé Albatros. Pendant ce temps, en Russie sont créés les cinétrains qui permettent la circulation et la diffusion des images pro-révolutionnaires partout dans l'Empire. En 1922, c'est la création d'un comité du cinéma, le Goskino, ouvert dans le cadre de la NEP, c'est-à-dire la nouvelle politique économique, qui est pour rappel une pause dans le processus de collectivisation, pendant laquelle est mise en place une libéralisation partielle de l'économie pour remettre en partie le pays sur pied. Après cela, dans les années 1920, nous entrons dans une période faste de création du cinéma, qui est animée par l'espoir qui suit les violences de la Révolution.
C'est passionnant. On imagine donc que cette période a dû être très inspirante pour les auteurs du cinéma. Quels sont les grands mouvements cinématographiques qui apparaissent alors à ce moment-là ?
Avec tous les nouveaux types de films qui apparaissent, on voit se dessiner des grands courants d'avant-garde. Pour faire vite, on en a trois. Le futurisme, marqué par une esthétique d'inspiration italienne et qui promeut l'avenir, la révolte, l'accélération, le mouvement qui existait déjà dans la littérature. On a ensuite le formalisme, qui provient quant à lui de la littérature de Saint-Pétersbourg. C'est un genre dans lequel on privilégie la forme. C'est de ce mouvement que naît la critique littéraire. D'ailleurs, les plus grands auteurs littéraires formalistes en viennent à produire de nombreux scénarii. Et enfin, nous avons le constructivisme, qui est un courant très visuel, géométrique. On veut montrer des structures, des œuvres, les coulisses. Ce constructivisme marque aussi à cette époque le théâtre.
Alors justement, est-ce que le cinéma est influencé par l'idéologie marxiste ?
Oui, tout à fait. Ce cinéma des années 20 voit l'arrivée d'une culture prolétarienne, ce que les Russes ont appelé le « prolet-kult ». On veut, et c'est une volonté également du parti, créer une culture prolétarienne émanant de cette classe sociale. Cela permet donc de découvrir des créations, des sujets, des lieux qui viennent de ce milieu. Par exemple, le cuirassé Potemkin commence dans ce milieu. C'est d'ailleurs, le film est une commande du prolet-kult.
On y reviendra tout à l'heure. Comment s'organise la production de films à cette époque où, nous le rappelons, nous ne sommes pas encore dans une logique totalitaire qui viserait à tout contrôler ?
Oui, on a du coup une très grande hétérogénéité des structures de production qui s'affirment. On a plein de films très différents. Et toute cette production n'est encore pas verrouillée par le Goskino. C'est à ce moment-là que naît par exemple les studios Mejrapom Russe, qui est une société russo-allemande et qui dura de 1924 à 1936, jusqu'à la nationalisation par Staline. Ces studios sont très ouverts dans tous les domaines et sont actifs jusqu'à Weimar en Allemagne. Entre 1924 et 1930, ils réalisent une centaine de films très différents touchant la science-fiction, les comédies burlesques, les drames, les satires, l'animation, les documentaires. Il y a même des stars qui sont mises en avant dans ce studio, ce qui nous éloigne véritablement des principes du prolet-kult, où l'individu est censé disparaître derrière le collectif. Par exemple, dans le film Aelita, réalisé par Protasanov en 1924, on imagine une URSS qui s'installe et se développe sur Mars. Il s'agit d'une superproduction qui, si ça vous intéresse, est visible sur YouTube. Autre grand exemple, la comédie Les extraordinaires aventures de Mr. West au pays des bolcheviks de Lev Kulchelov, lui aussi visible sur YouTube.
Alors, c'est un film muet, voici le synopsis. Accompagné de J.D., un cow-boy qui lui sert de garde du corps, Mr. West débarque en Union soviétique. Là, profitant de sa crédulité, des voyous lui soutirent de l'argent. Pour mieux l'escroquer, il évoque les méchants et sanguinaires bolcheviques. Mais grâce à une compatriote, Hélène, Mr. West échappe à leurs griffes et les vrais bolcheviques présentent un visage radieux du pays à leur route. C'est absurde, inventif, rocambolesque, avec Mr. West, partez sur les traces des bolcheviques fous emplis de vodka et de goulash en compagnie d'un cow-boy atypique. Cette parodie des céréales américains est aussi instructive qu'irrésistible.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Alors, mis à part en Allemagne avec ce cas de Mejrapomrus, avec l'accent pourquoi pas, qui coproduit de nombreux films, ce cinéma soviétique est-il prolifique et est-il surtout ouvert sur l'étranger ?
Mais pendant cette période, c'est quand même 500 longs métrages qui sont produits en URSS. C'est donc une activité riche et diverse. Ils traitent de l'actualité. Ces films-là prennent pour habitude de multiplier les effets de montage afin d'associer les images ensemble et leur donner ainsi un nouveau sens différent. C'est par exemple ce que fait Kouletchov ou encore Eisenstein qui devient un maître dans ce domaine. C'est d'ailleurs là une révolution dans le cinéma, même si ce ne sont pas les Russes qui ont inventé le montage. On est au terme des années 1920, à la fin d'un âge d'or du cinéma soviétique, marqué par l'audace avant que tout ceci ne se retrouve enclavé par une étroite censure. Les cinéastes pensent, durant ces années folles, participer à la construction d'une société nouvelle. Et puis il y a aussi de gros succès commerciaux, notamment ceux de la Mejrapomrus, comme le film de Mr. West, dont on a parlé juste auparavant. Il s'agit d'ailleurs là de succès supérieurs à ceux des films d'Eisenstein. Cette période est aussi celui des progrès des films commémoratifs. En URSS, on trouve aussi de nombreux films européens et américains qui marchent particulièrement. Si bien qu'aujourd'hui encore, on découvre dans les archives des cinéma clubs de nombreux films que l'on croyait disparus. A l'inverse, les films soviétiques sont aussi diffusés à l'étranger, notamment en Allemagne, comme on l'a dit précédemment. En revanche, la France nourrit quelques méfiances vis-à-vis de ces films, et leur diffusion reste confidentielle, seulement dans quelques cinéma clubs, mais pas dans des salles de grand public. Il faut attendre 1945 pour que le pays s'ouvre enfin au cinéma russe.
Alors, tu as évoqué un nom qui a dû faire tilt pour tout le monde, un certain Eisenstein, qui est justement très actif dans les années 20. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, c'est un immense cinéaste, évidemment, sans doute le plus connu encore aujourd'hui du cinéma russe, mais qui n'a pas une immense filmographie. Son œuvre est cependant incontestablement restée dans les annales. Sa carrière est marquée, comme tous les artistes qui ont connu de longues carrières, par différentes périodes. La première est celle qu'il a fait connaître. C'est le temps des premiers succès avec 4 films qu'il réalise entre 1924 et 1929, pendant cet âge d'or du cinéma russe. Dans ses longs métrages, il met largement en avant la révolution russe et s'appuie sur les grandes thématiques de l'idéal soviétique. Il s'agit de La Grève, réalisé en 1924, le cuirassé Potemkin qui sort en 1925, Octobre en 1927 et enfin La Ligne Générale en 1929. Dans chacun de ses films, il se base sur une grande figure, une classe sociale issue du prolétariat. L'ouvrier pour la grève, le matelot pour le cuirassé Potemkin, les bolcheviks pour Octobre et des paysans pour la lignée générale. Ces 4 grands succès l'ouvrent à la postérité et il en profite pour voyager en Europe et aux États-Unis. Outre-Atlantique, il projette même de réaliser un film pour le compte de la Paramount, mais cela n'aboutit pas. Il se rend donc au Mexique pour tenter une nouvelle aventure cinématographique, mais Staline le rappelle en urgence à rentrer au pays en 1932. Il rentre donc en URSS, mais tous ses projets se trouvent bloqués par la censure. Il entame ainsi une traversée du désert avec plusieurs productions inachevées qui s'accumulent jusqu'en 1938.
Alors, sa plus grande œuvre, la plus connue en tout cas, reste le cuirassé de Potemkin. Tout le monde voit cette affiche et cette fameuse scène des escaliers. Que peut-on dire de ce chef-d'œuvre du cinéma ?
C'est le plus grand succès pour la toute première période de Eisenstein. L'analyse des affiches de ce film met en avant l'approche constructiviste avec une structure très géométrique, voire sur certaines d'entre elles, carrément symétrique. Ce film est une commande faite par la commissaire des peuples à l'instruction pour commémorer la révolution de 1905 qui était restée inaboutie. Cela permettait au parti de mettre en avant les prémices de cette révolution car celle de 1917 n'était pas la première. En revanche, c'est la seule qui a réussi. Fêter cette commémoration pour l'année 1925 est donc une façon de glorifier octobre 1917. Pour l'occasion, il est demandé à Eisenstein de réaliser une grande fresque où doivent apparaître toutes les régions de l'URSS. Mais ce film est commandé au dernier moment et les délais sont donc excessivement courts. En plus, l'hiver 1925 est particulièrement rude. Eisenstein se rend donc au seul endroit de l'Union où il fait beau, donc là où il est possible de tourner, c'est-à-dire à Odessa sur le littoral ukrainien. Il y découvre alors ces escaliers monumentaux et imagine seul un tout autre scénario que celui qui était prévu. Il pense alors se baser sur l'histoire de la révolte des matelots du cuirassé Potemkin de 1905, marquée par la féroce répression de l'armée tsariste à l'encontre de la population d'Odessa, qui soutenait la mutinerie. La fameuse scène des escaliers où les soldats tirent sur une foule qui s'enfuit en dégringolant les escaliers est l'une des plus connues de l'histoire du cinéma. Et la qualité du montage opéré par Eisenstein y est pour beaucoup. L'action est ainsi ralentie, dilatée dans le temps. L'accent est mis sur les visages des victimes, notamment celui des deux mères qui se font tuer, l'une avec son fils dans les bras, l'autre devant sa poussette qui descend dans tous les sens ses escaliers blancs. Face au peuple martyr, les soldats en bottes, dont on ne voit à aucun moment les visages, avancent de façon implacable et tirent dans un claquement de bottes marqué.
Raphaël, est-ce que le film est bien reçu au moment de sa sortie ?
Mais on ne sait pas vraiment comment il a été reçu en Russie. Les responsables politiques sont quand même tout à fait satisfaits. À l'étranger aussi, le film est très apprécié, notamment en Allemagne où il reste plus de un an à l'affiche à Berlin. On y a même vu des spectateurs qui sortent de la salle en chantant à tue-tête l'Internationale ouvrière. C'est peut-être d'ailleurs ce genre de comportement qui explique le long maintien d'une sorte de méfiance de la France vis-à-vis du cinéma soviétique. D'ailleurs, le cuirassé Potemkin n'y est pas diffusé, ou alors que dans des obscures salles de ciné-club à Paris.
Voilà donc pour cette première partie du 15e épisode de Clin d'œil à l'histoire, consacré au cinéma et à la politique en URSS. La prochaine fois, nous verrons donc comment le grand virage stalinien a-t-il touché le cinéma entre les années 30 et 1950. Comment ce dernier est peu à peu entré dans le rang et comment il a servi la propagande soviétique un peu partout dans le monde. C'était le 15e épisode de Clin d'œil à l'histoire, une émission préparée par Raphaël
et Ben,
diffusée le samedi matin une semaine sur deux à 11h.
Voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des quatre vents? Ma mémoire chante en sourdine, Potemkin. Ils étaient des marins, durs à la discipline. Ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin, au grand vent se furine. Ils étaient des marins, sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde. Que face aux révoltés montent les fusiliers? c'est mon frère qu'on assassine. Potemkine, mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade. Marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leur carabine. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine. Potemkine.